suite sur les docks. Bonjour Irène Emelianenko.
Bonjour Hervé Gardette. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux drones, ce qui se traduit par faux bourdons. Ces objets volants sont capables d'amuser les enfants au même titre que les voitures téléguidées, mais sont aussi susceptibles d'être utilisés pour s'infiltrer, espionner et aussi porter des armes de destruction.
Alors en France, les drones relèvent du code de l'aviation civile, du code des transports et de la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile.
Oui Hervé, et nous entendrons du reste son directeur Patrick Gandil, ainsi que Hakem Amrani Montanelli, créateur du premier Fab Lab français entièrement dédié aux drones. Grâce à une imprimante 3D, il est capable d'assembler une bonne partie des pièces mécaniques qui composent ces machines, avec gyroscope, système d'intelligence artificielle, caméras et autres capteurs embarqués. Les drones font irruption dans l'espace public, les connaissances sont en libre accès sur Internet et posent des questions de sécurité inédites. Ce documentaire a été enregistré entre mai et septembre 2015.
Cette nuit, dans le ciel de Paris, nous avons pu observer des vols de drones. C'est pas la première fois que ça arrive sur la capitale. Néanmoins, cette nuit, c'est la première fois où nous avons pu déterminer un nombre de 4 à 5 drones en vol simultané sur la capitale.
C'est une zone aérienne strictement interdite. Pourtant, ces dernières semaines, des drones non identifiés ont réussi à survoler des sites nucléaires. Gravelines, Chouz, Cattenom, Bugey ou encore le Blayé. Au moins 7 centrales, plus le siège du commissariat à l'énergie atomique, sont concernées.
Un petit drone qui vole sous le nez d'Angela Merkel. Nous sommes à Dresde, en plein meeting électoral, quand cet engin est apparu dans le ciel. Le coup est signé des pirates, un petit parti allemand qui entendait protester contre la vidéosurveillance policière.
Un drone a survolé le palais de l'Élysée la semaine dernière.
Alors ce sont deux policiers qui l'ont repéré, ils ont vu une lumière jaune qui venait de la place Beauvau, qui a survolé le mur ouest de l'Élysée et qui ensuite, cet engin est parti vers la Concorde. Alors acte de malveillance, plaisanterie, erreur de trajectoire, toutes les hypothèses pour l'instant sont ouvertes.
Sur les docks. Drones. La France relève le défi.
Coucou. Tu vas voir le drone de mamie ?
Drone de mamie.
Oui. Regarde. Tu vas appuyer sur le bouton ? Là. Voilà. Oh là là, c'est bien, dis donc. Tu as fait fort. Alors attends. Hein. Là, ici, sur les manches. Là. Tu entends ? Oui. Quand tu seras grand, mamie t'achètera un drone ?
Oui.
Oui ?
Encore ?
Allez, on fait encore un petit essai ?
Oui.
Les drones ont fait irruption dans l'espace public. Match de foot qui dégénère à Belgrade quand un engin volant auquel est accroché un drapeau vient attiser les haines nationalistes entre Serbes et Albanais. Mystérieux survol des centrales nucléaires françaises en octobre 2014, mais aussi de la base de sous-marins nucléaires de l'île Longue en janvier 2015. Actrices américaines surveillées jour et nuit par des paparazzi technophiles. Atterrissage surprise au pied d'Angela Merkel lors d'un meeting à Dresde. Ces drones posent des questions de sécurité inédites. Techniquement parlant, la frontière entre engins professionnels et amateurs s'estompe. Toutes les informations permettant de construire les robots volants les plus évolués sont disponibles en open source sur Internet. Les drones sont devenus accessibles à toutes les bourses et grâce au progrès fulgurant de l'électronique miniaturisée, n'importe qui peut les piloter. Je pars à la rencontre d'Hakim Amrani Montanelli sur un terrain de la région parisienne. Hakim dirige le Fly Lab, une start-up issue de la logique des Fab Labs. Et le drone qu'il fait voler n'est pas tout à fait un drone comme les autres.
Tac. Oh bah là, je suis en train de mettre l'hélice sur le support moteur. Et pour que l'hélice ne s'en aille pas, je vais visser
Hélice en carbone.
C'est une hélice en carbone, tranchante, rigide. Je vérifie juste le sens de rotation de mes hélices. Absolument pas se tromper. Donc en gros, tout le plateau du dessus, il tourne dans le sens horaire. Et tout le plateau du dessous tourne dans le sens anti-horaire. C'est un drone qu'on a fait pour un appel à projet de l'Agence Nationale de la Recherche, mais qui a été demandé par le ministère de l'Intérieur suite au survol des drones qu'il y a eu à Paris. Et nous, on a choisi de faire un drone anti-drone. Et donc, voilà, c'est ce que je suis en train de monter là sur le terrain. C'est un drone qui a des capacités de vitesse, d'agilité absolument folles. Il atteint des pointes à 200 km/h, il fait du 0 à 100 mètres en quelques secondes. C'est vraiment une machine assez incroyable. Donc on a...
Beaucoup travaillé.
Absolument.
Et pas remporté l'appel d'offres, on peut le dire.
Alors, on n'a pas remporté l'appel d'offres parce que c'est bien évidemment, j'ai envie de dire, Thales qui l'a récupéré. Et qu'il y a eu 40 boîtes qui ont bossé sur cet appel à projet, plutôt des petites boîtes en fait. Alors, l'objectif c'était de faire un état de l'art de ce qu'était le drone en ce moment, quels étaient les dangers qu'on pouvait craindre des drones, et donc de faire des scénarios. Et on a aussi listé toutes les manières d'interrompre ces drones.
Il y avait un cahier des charges précis ?
Il n'y avait pas vraiment de cahier des charges, non. On nous disait pour des drones de moins de 150 kg et plus particulièrement de moins de 25 kg. Mais en gros, c'est le cahier des charges, c'est bien évidemment les drones qui volaient à Paris et les drones faits par des geeks ou des étudiants en école d'ingénieurs qui ont et les moyens et l'endroit pour faire décoller en plein Paris les drones. Donc non, c'était assez flou et je pense que ces 40 boîtes qui ont participé à l'appel à projet de l'Agence Nationale de la Recherche ont réellement aidé le gouvernement, en tout cas l'entité ministère de l'Intérieur, à comprendre ce qui se passe. Et on est tombé sur des personnes qui comprenaient ce qu'on faisait en fait. Je pensais qu'au ministère de l'Intérieur, personne ne comprendrait ce que c'était même un drone, les histoires de voilure, les histoires d'interception. Et en fait, on a eu une qualité d'écoute absolument incroyable.
Le 28 mai 2015 se tient à Paris un colloque organisé par le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, un service qui dépend du Premier ministre. La thématique concerne les opportunités et les risques associés à la multiplication des drones civils. Un appel à projet a été organisé et quatre consortiums, Angelas, Boread, Demopac et Speed, ont été retenus. Les solutions envisagées sont-elles à la hauteur des enjeux ? Voici pour commencer le point de vue du préfet Evance Richard sur la situation. Il est directeur de la protection et de la sécurité de l'État. C'est donc l'homme chargé, entre autres, d'éviter qu'un drone se pose un jour au pied de François Hollande.
L'objectif du colloque était de faire le point sur les réflexions menées donc dans un cadre interministériel à la demande du Premier ministre depuis le mois de novembre dernier, en associant un certain nombre de pays étrangers qui sont confrontés aux mêmes difficultés et qui mènent des réflexions à peu près parallèles aux nôtres. Le colloque vise à traiter des questions des usages malveillants des drones et de regarder comment se situent les projets français par rapport aux solutions déjà utilisées par un certain nombre de pays étrangers et éventuellement peut-être créer un cadre européen à peu près homogène.
Depuis combien de temps est-ce que vous sentez que c'est devenu un thème central ?
Les préoccupations sont très clairement apparues depuis le début du deuxième semestre de l'année dernière.
Vous l'aviez quand même senti venir, c'était prévisible presque d'une certaine manière.
On constatait effectivement que les drones étaient un secteur en pleine expansion, mais de là à représenter une véritable menace, on le subodorait, mais on n'en avait pas encore d'éléments tangibles.
Ce sont des drones comme celui-ci qui, tout au long du mois d'octobre, ont survolé plusieurs centrales nucléaires françaises. Au moins 7, selon EDF, qui a déjà porté plainte. Il est interdit de survoler ces sites dans un périmètre de 5 km. Le gouvernement rappelle que l'espace aérien au-dessus des centrales est surveillé par l'armée de l'air.
Général de division Éric Darras, bonjour.
Bonjour. Je suis donc l'adjoint au directeur des opérations et de l'emploi à la direction générale de la gendarmerie nationale. Toutes les enquêtes judiciaires qui concernent les survols de drones sur le territoire national sont centralisées et coordonnées par la section de recherche de la gendarmerie des transports aériens, y compris ceux qui survolent Paris, donc qui sont sur le territoire de la préfecture de police.
Et pour vous, il y a une date qui restera dans votre mémoire, c'est le 5 octobre 2014.
Oui, c'est-à-dire que c'est une date qui est importante dans la mesure où un drone, ce jour-là, a survolé la centrale nucléaire de Creys-Malville. Et ça a été le début d'une série de plusieurs survols d'autres sites sensibles.
Donc il y a eu 37 survols signalés de centrales et 19 avérés.
Oui, et les autres ont été infirmés. Les gens, en fait, avaient confondu, alors soit avec un hélicoptère, soit même, si ça peut paraître un peu surprenant, avec des avions de ligne.
Je voudrais revenir à ce 5 octobre 2014. Comment est-ce que vous apprenez cette nouvelle? Et à ce moment-là, vous pensez quoi?
C'est-à-dire?
Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? C'est une première, donc j'imagine que ça doit surprendre.
Oui, c'était une première. Ben, on a fait les constats, on a essayé de trouver les parades nécessaires, les investigations ont été menées.
À l'époque, il y avait des procédures prévues pour ça?
Procédure, c'est-à-dire dans le sens...
Est-ce que vous saviez automatiquement quoi faire à ce moment-là?
Oui, tout était très, très, très clair et il n'y a pas eu de difficulté s'agissant de...
Et vous avez fait quoi?
Les signalements ont fait l'objet, de, comme je disais, d'enquêtes de la part de la section de recherche. Des expérimentations sont en cours sous l'égide du SGDSN pour trouver des moyens de détection et d'interception de ces engins. Le but principal qui est le nôtre, c'est en fait de retrouver le télépilote.
Aujourd'hui, après presque un an d'enquête, on n'a toujours aucune idée des personnes qui ont envoyé des drones au-dessus des centrales nucléaires. C'est un peu vexant.
C'est la réalité d'une menace nouvelle qui apparaît avec des personnes qui ne sont pas forcément formées à la prise en charge de ce nouveau phénomène.
C'est reparti pour la danse des acronymes. Frédéric Coste, chargé de recherche à la FRS, Fondation pour la Recherche Stratégique, a plus de liberté pour aborder les problèmes épineux auxquels la France est confrontée. Petit élément de contexte, la FRS fait partie de SPID, un des consortiums retenus par l'ANR, Agence Nationale de la Recherche, pour le compte du SGDSN, Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale. La FRS est chargée d'évaluer les aspects juridiques et sociaux de la création de notre fameux drone anti-drone.
C'est déstabilisant, ça montre que la cuirasse, que la carapace a des trous, ça c'est évident.
Qui a survolé? Est-ce qu'on a des pistes?
Pour le survol de sites sensibles, notamment des centrales nucléaires, il est difficile de croire que c'est par inadvertance. Apparemment, ce sont soit des acteurs environnementalistes ou en marge des milieux environnementalistes qui auraient voulu montrer les risques inhérents pour les centrales nucléaires, leur vulnérabilité, ça c'est une première possibilité. Il y a une dernière possibilité qui est un peu ce qu'on voit finalement dans le monde du hacking, c'est-à-dire des gens qui sont en recherche de défis, et notamment celui de défier en fait les forces de police, et donc d'aller vers des sites de plus en plus sensibles pour montrer qu'ils sont capables de le faire auprès d'une communauté de spécialistes de l'aéromodélisme et du drone qui communiquent essentiellement sur Internet en fait. Et même la chancellerie, parce qu'il y a des instructions en cours, privilégie ces pistes-là. Alors, il y a une piste qui peut pas être balayée d'un revers de la main, c'est la piste véritablement terroriste, hein. C'est effectivement des gens qui feraient des repérages. Cela dit, des terroristes qui voudraient repérer des cibles essaieraient d'être le moins détectables possible, puisque... Évidemment, en réponse à ces survols, les règles de sécurité ont été renforcées. Donc c'est contre-productif pour un terroriste d'avoir un drone qui a été détecté s'il fait du repérage.
Voilà. Nous, on est une équipe de 5 au FlyLab. 5 personnes assez douées dans leur domaine respectif, à savoir le développement, l'électronique, le contrôle de vol, le machine learning, l'intelligence artificielle. Et des gros groupes ne peuvent pas travailler sur 2 mois. Nous, on sait travailler sur 2 mois, on s'entend, on bosse 18 heures par jour. Enfin, s'ils sont venus nous voir en première instance et si on a été écouté par le ministère de l'Intérieur, c'est réellement parce qu'en 1 mois et demi, on avait une solution qui tournait déjà, quoi.
Alerte, alerte, un drone nous survole, tu dois l'arrêter. Maintenant.
Ok.
Tu as 30 secondes.
Bonjour, Patrick Guyonneau.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur en chef de l'armement au ministère de l'Intérieur. Et récemment, donc ces derniers mois, à la fin de l'année 2014, vous avez cherché à construire ou faire construire un drone, intercepteur de drones hostiles.
Alors, on a reçu 80 propositions d'entreprises, non de propositions spontanées, pour dire, alors les entreprises disaient, moi je sais détecter, moi je sais caractériser, moi je sais intercepter, moi je sais brouiller, moi je sais leurrer. Alors on en a sélectionné parmi ces 80 produits, on va dire, une quarantaine qu'on a testé sur des vrais scénarios avec des vrais drones à Capcieux. Donc c'est un centre d'essai du ministère de la Défense, c'est une action interministérielle pour voir leur niveau de maturité technologique, leur niveau de performance. Donc voilà, ça a coûté quelques centaines de milliers d'euros. Et en parallèle, on a un projet à l'ANR, à l'Agence nationale pour la recherche, donc avec un petit peu plus d'1 million d'euros, qui a permis de lancer 3 projets pour travailler sur un sujet qui est très important, qui est la coordination. On voit bien que pour détecter, caractériser, agir sur le drone, eh bien, il va falloir de la fusion de données, croiser plusieurs capteurs, hein. Ça peut être du radar, de l'acoustique, de l'infrarouge. Donc voilà, il y a toute une fonction, on va dire, d'intelligence, de coordination des capteurs à faire. Et c'est là-dessus qu'on investit donc un petit peu, plus d'1 million d'euros.
À comparer aux 800 euros et quelques qu'il faut dépenser pour avoir un drone capable d'emporter une charge de 2 kilos. Déjà 2 kilos de TNT, ça fait beaucoup.
Oui, alors bon, je ne suis pas sûr qu'un drone de 800 euros peut emporter une charge de 2 kilos. Mais là où vous avez raison de souligner, c'est la facilité aujourd'hui. Hein, le drone, c'est grand public, on le sait, c'est je crois parmi les cadeaux les plus répandus au moment de Noël.
Donc, j'en ai moi-même offert un à ma nièce de 6 mois.
Voilà, et puis bah, votre nièce de...
Oui, c'est un alibi, c'est pour pouvoir jouer avec.
Voilà, mais bon, si vous avez votre neveu de quelques années, un gamin en 10 ans, il a vite compris comment ça servait. Alors, on s'aperçoit qu'il y a même des bricoleurs de génie qui font ça, des drones au fond de leur garage avec des imprimantes 3D qui achètent des composants, qui les assemblent. Voilà, donc on a vraiment une disproportion entre ce nouveau risque et les solutions que l'on a à mettre en face.
Ok, juste, il faut vraiment faire attention, garde une petite distance. Je vais juste faire un test d'hélice. Là, c'est vraiment un drone qui n'était pas fait pour être piloté. Il est vraiment ultra nerveux, très compliqué à piloter. Celui-là se voulait vraiment comme un robot complètement autonome. L'idée, c'est qu'on voulait embarquer un essaim de mini-drones sur notre intercepteur et avoir 3 mini-drones... On aurait pu déjà faire une visualisation de ce drone, essayer de qualifier sa dangerosité. Et ensuite, on avait dans ces essaims de mini-drones, on avait un plus petit drone qui balançait des ondes électromagnétiques, des impulsions IEM ou des EMP, comme on dit en anglais, qui permet de remettre à zéro le contrôleur de vol et d'arrêter la mission.
T'es prêt ?
Prêt. J'ai plus qu'à brancher la batterie. Enfin, prêt à voler. On va juste faire un petit test au sol rapido.
Amiral Renaudot, bonjour.
Bonjour.
Techniquement, est-ce qu'on a une meilleure idée maintenant de ce qui marche ?
Oui, absolument. Donc, je dirige la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense du ministère de la Défense. Alors, effectivement, à l'issue de cette campagne, nous avons une idée de ce que l'on peut faire à court terme, notamment en termes de détection. Donc, c'est une détection à base de radar. On peut avoir des fusils de chasse, je dirais, adaptés à cette menace, mais avec des portées relativement limitées. Et puis, donc, il y a une autre voie qui fonctionne, qui est celle du brouillage, donc brouillage électromagnétique. Donc, pour brouiller la télécommande du drone, son système de navigation ou leurrer son système de navigation.
Est-ce que vous avez été confronté à la question d'un drone qui n'était pas piloté, mais qui était programmé pour effectuer une mission et revenir à sa base ? Et dans ce cas-là, est-ce que le brouillage fonctionne encore ?
Alors dans ce cas-là, le brouillage effectivement ne fonctionne pas. Les tests que nous avons effectués, c'était des tests de drones télépilotés, donc avec des téléopérateurs. Mais il y a encore d'autres modes d'action dans le cadre des contraintes que l'on pourrait imposer aux fabricants, importateurs, utilisateurs de drones. Eh bien, c'est d'avoir un système préprogrammé d'interdiction de survol de zones sensibles. déjà préétabli.
Alors vous imaginez bien que les gens qui vont vouloir de manière vraiment offensive survoler des sites interdits ne vont pas vous prévenir et ne vont pas prendre des drones qui seront équipés de ce genre de dispositif.
Alors c'est une remarque qui nous est souvent faite, mais il nous paraît important, je dirais, de sécuriser l'emploi licite des drones. Et le traitement face à des vols illicites, eh bien, on l'obtiendra à ce moment-là, si ce n'est pas par brouillage, par des tirs de jets de matière, et donc on revient au fusil de chasse.
Donc, c'est un robot qui est entièrement autonome.
Qui est entièrement autonome, absolument. Il sait voler seul. Il sait éviter des obstacles, il sait suivre un autre robot. Sympa. Ok. Il n'y a pas besoin de pilote en réalité. Là, tu le pilotes parce qu'il faut que la situation soit légale. Voilà. Mais sinon, il sait rester sur une position. Il sait compenser le vent. Il sait.
Là, il y a des rafales à presque 30-40 km/h. Ça ne le gêne pas du tout.
Vous verrez qu'il est absolument pas sensible au vent.
J'ai une petite idée, si je peux aider la France peut-être. Donc, si j'ai bien compris, la police hésite à tirer sur les drones parce que, évidemment, après, ils peuvent tomber sur la tête de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on a imaginé pour éviter que les drones tombent sur la tête des gens ?
Donc, effectivement, il existe des drones capables, je dirais, de détecter d'autres drones, capables de détecter les téléopérateurs et pouvant aller jusqu'à les intercepter avec un filet.
Ah bon, c'est moi l'idée que j'avais, c'était 4 drones en réseau qui auraient tendu un filet et qui mitraillerait le drone hostile. Mais donc, c'est à peu près la même chose, quoi. C'est l'idée de tomber sur un filet. Ça, c'est en cours alors.
C'est une voie à explorer.
C'est une bonne idée.
C'est une excellente idée qui malheureusement n'est pas réalisable tout de suite pour des raisons de localisation de drones. En gros, les drones se localisent avec donc des systèmes GPS comme nos voitures, mais la précision est de l'ordre de 2,50 m. Et que pour faire voler des drones en essaim ou de manière collaborative, il faut avoir une précision de l'ordre du centimètre. Donc pour l'instant, avoir un filet tenu par 3 drones en extérieur, c'est pas réalisable.
Ça se fait, il y a Camel Robotics aux États-Unis
en intérieur,
fait des balais de drones.
Ça se fait en intérieur avec des systèmes qui s'appellent Vicon. VICON, en fait, ce sont des salles tapissées de caméras très très haute définition. Ce réseau de caméras va analyser toutes les positions des drones parce qu'ils ont des petites couleurs.
Lumière.
Absolument. D'accord. Et donc en intérieur, ça fonctionne. En extérieur, Camel Robotics le fait. Ça coûte 200-300 000 euros juste les caméras. Donc pour l'instant, c'est pas au point.
Les essais sont pas forcément concluants parce qu'il faut un drone d'une certaine puissance et par ailleurs il faut le manœuvrer. Il faut réussir à intercepter l'autre. Ça demande quand même une pratique qui n'est pas donnée à tout le monde, des capteurs qui soient très très performants, donc des drones défensifs qui soient chers. Donc on verra, c'est pas forcément la meilleure solution. Tout comme l'est, par exemple, le fait de tirer en l'air pour abattre un drone. C'est encore une solution encore moins bonne. Mais donc, c'est une des thématiques qui va être traitée par les 3 consortiums, parce que les consortiums vont devoir traiter la question de la détection et de la neutralisation.
Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les consortiums et décrire un peu les projets qui ont été retenus ?
Alors, vous les décrire précisément, je peux pas. Tout simplement parce que il y a quand même des problèmes de propriété industrielle. Hein. La logique globale de ces consortiums, c'est vraiment d'utiliser des briques technologiques qui existent déjà. C'est-à-dire, on est déjà sur des solutions technologiques qui sont très très avancées et il faut les mettre en synergie. L'objectif est d'avoir quasiment des systèmes déployables dans 6 mois, 1 an, et des vrais systèmes qui pourraient être proposées aux opérateurs, hein, que ce soit ERDF par exemple, dans 18 mois. Donc on voit que c'est très très court. Hein. Donc ce seront vraiment des briques capacitaires. Alors les trois consortiums, la FRS fait partie d'un consortium qui a été retenu. Il y a un consortium dans lequel il y a notamment Thales qui va proposer très certainement des choses à base de radar, alors que Speed va proposer des solutions à base de détection optronique et acoustique essentiellement.
Parce qu'en fait, on peut inverser les ondes sonores et donc du coup, c'est bon. Et donc, si jamais un drone survole Paris, on peut surtout enregistrer éventuellement les signaux.
La signature.
Les retourner temporellement, les mettre à l'envers, et poum, les renvoyer sur l'émetteur. Éventuellement, si on les amplifie très fort, on peut même exploser l'émetteur.
Oui, alors, oui, oui. Alors, typiquement, une autre solution serait de couper la commande entre le drone et l'opérateur. La plupart des drones utilisent des télécommandes avec du Wi-Fi. Donc vous annulez tout le Wi-Fi dans la zone. Donc vous imaginez dans une grande agglomération couper tout le Wi-Fi.
Ils sont de retour. La nuit dernière, à partir de 22h, plusieurs drones ont survolé Paris. Un appareil a été repéré à la Tour Eiffel. D'autres ont été aperçus, porte de Bagnolet, porte de Montreuil et porte de Vincennes. Cette fois-ci, la police n'est pas passée loin. À l'est de Paris, les agents ont repéré un appareil à basse altitude.
Il faut d'abord rester très raisonnable. Nous n'avons pas eu d'accident sérieux de drone et ce n'est une menace que dans des conditions exceptionnelles.
Patrick Gandil, directeur général de l'aviation civile.
On peut envisager des utilisations terroristes de drones. Et à ce moment-là, on est vraiment face à une menace qu'il faut gérer. Mais ce n'est pas parce qu'on fera une réglementation qu'elle sera respectée par le terroriste. Mais on a eu des actes terroristes parmi les plus importants qu'on ait connus à Paris. C'était des fourgonnettes piégées devant les grands magasins. On n'a pas interdit les fourgonnettes et la fourgonnette n'est pas devenue une arme par destination en la matière. C'est tout un arsenal de moyens qui doivent être utilisés contre le terrorisme. Après, mon problème, c'est que dans les utilisations courantes, des drones ne tombent pas d'une certaine hauteur sur la tête des gens parce que ça peut blesser gravement ou tuer si ça tombe d'une hauteur suffisante. D'où l'interdiction ou les précautions extrêmes d'utilisation des drones au-dessus des zones habitées. Et c'est d'autre part que des drones ne percutent pas d'autres usagers de l'espace, des avions ou des hélicoptères, d'où des règles de vol bien particulières. Le grand public doit respecter ce qu'on a publié sur Internet, c'est-à-dire qu'il ne peut pas les utiliser hors vue du pilote et il ne peut pas les utiliser dans des lieux habités. Et il ne peut pas les utiliser non plus à proximité des trajectoires aériennes. Donc c'est vraiment fait pour être utilisé dans un espace ouvert, dans un pré, pas à côté d'un aérodrome, et on doit rester à vue de son télépilote.
Alors, les règles actuelles sont lisibles à quel endroit ?
Bah, sur le site de la DGAC, il y a une réglementation qui tient une page, et cette page est de plus en plus associée à la vente des drones en magasin.
Alors justement, donc les drones en magasin, en 10 ans, il y a eu un bond absolument spectaculaire, ce qui, il y a 10 ans, était presque du registre des services spéciaux, est devenu accessible au grand public.
Oui, c'est vrai, et c'est très bien comme ça. Simplement, il faut que ce qui est un jouet continue à avoir une utilisation de jouet, et il ne faut pas se prendre pour un professionnel quand on achète un jouet.
Attendez, j'ouvre la porte. Voilà. Alors là, ça dégage de l'air. C'est là, si je vois que j'ai pas fait le ménage, ça vole, hein, la poussière. Et les papiers aussi.
Florence Arnoux.
Donc je regarde comment il est réglé. Là, donc il tire un peu, alors avec des trims, je l'équilibre. Là, il tire un peu à droite, donc à gauche. Un peu devant, donc toc. Donc, alors voilà. Alors, je vais me mettre dans le bon sens. Alors, au début, faire du yo-yo, ça veut dire à mettre trop les gaz, les descendre et tout ça. Donc essayer de rester, déjà c'est un exercice, à essayer de rester au même niveau. Voilà, donc. Voilà, alors, bon, là ça fait longtemps que je n'ai pas fait cet exercice-là, mais bon voilà.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire?
Je fais le tour du rez-de-chaussée, ça me fait faire des virages et surtout, comme l'espace est réduit, ça permet d'essayer de manœuvrer avec finesse et tout. Parce que moi, quand je vais sur la grande pelouse, l'autre jour, je me croyais forte en pilotage pendant... c'est mon copain qui m'avait dit ça. Tu m'utilises pas le drone avec des photos sans avoir fait 30 batteries, il m'avait dit, quoi. Donc, je suis allé sur la grande pelouse, j'ai vidé mes 30 batteries. J'arrivais à faire des tas de tours, des 8 et tout ça. Je me croyais forte, mais il y avait un espace dégagé. Et après, j'ai voulu prendre un bassin avec plein d'arbres autour et j'avais une petite percée. Et ben là... c'est autre chose hein, quand il faut éviter les arbres, les branches et tout. Donc c'est pour ça que de s'entraîner dans un intérieur, à faire des tours, à éviter les lustres, les meubles et tout, ça permet d'avoir un peu d'expérience, quoi.
Ça n'a strictement aucun rapport avec votre travail, cette histoire de drone. Vous n'étiez pas scientifique, vous n'aviez pas...
Ah non, moi j'étais institutrice et mais j'ai toujours bien aimé quand même la technologie, mais voilà, il fallait que j'apprenne tout quand même parce que...
Maintenant vous êtes en retraite ?
Voilà, je suis à la retraite, voilà.
Pourquoi est-ce que vous êtes passé au drone?
Il y a tout un cheminement. En fait, j'étais passionnée de photos depuis toute petite. J'ai dû gagner mon premier appareil photo à un concours de plage quand j'avais 5 ans. Et après, donc, j'ai toujours fait la photo. J'avais mon petit labo noir et blanc. Et puis un jour, je sais pas, j'ai eu un baptême de deltaplane et j'ai eu le coup de foot pour les vues aériennes. Alors, j'ai dit, j'aimerais bien faire de la vue aérienne. Puis j'ai dit, tiens, je vais essayer avec le cerf-volant. Alors après, avec le cerf-volant, je commençais à avoir les articulations de l'épaule qui criaient au secours, parce que quand le vent souffle, ça tire. Hein.
Et quand est-ce que les drones sont arrivés?
Eh bien, parce que en fait, pour décoller mon cerf-volant, il faut un grand espace. Et il y avait des endroits où je pouvais pas décoller mon cerf-volant. Alors je me suis dit, je vais me mettre au drone. Avec le drone, je vais pouvoir faire des repérages très rapidement, parce qu'en quelques secondes, je suis en l'air, je regarde ce que ça fait. Et en fait, au début, quand c'est nouveau, on veut monter haut. On croit que plus on est haut, plus c'est beau. C'est pas vrai. Vous voyez, il y a des photos qui sont assez basses, mais qui sont très jolies aussi, quoi. Donc,
c'est très géométrique, vos photos.
Oui, très géométrique. Là, on voit aussi tous les dégradés de vert, de orange. Alors, j'ai fait aussi pas mal de photos d'oiseaux, parce que mon but, c'est la nature au travers d'un regard d'oiseau. Alors, le faucon, par exemple, il vole plus haut que la perruche. Les libellules le volent assez basse, donc je mets la photo de la libellule et après je mets la photo des nénuphars vus du ciel. Vous voyez, c'est pour faire un lien, quoi.
L'idée de FlyLab à l'origine, c'était d'être un lieu où on pouvait partager ses connaissances autour du drone. On pouvait apprendre à dessiner en 3D des choses, les imprimer, les faire découper dans des machines-outils. Et ça s'est transformé en start-up, parce que le Fab Lab, c'était un petit peu compliqué pour produire de la valeur avec. On s'est retourné vers une forme start-up, parce que ça correspond complètement à ce qu'on est en train de faire. Pour qu'un drone soit fiable, et c'est le vrai enjeu pour nous tous, droniste, c'est la fiabilité des drones. Pour qu'on puisse les voir voler en milieu urbain un jour, c'est qu'ils rentrent pas dans des personnes, qu'ils tombent pas. Et pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Donc nous, ce qu'on a proposé, c'est un premier contrôleur de vol qui soit quasiment un ordinateur, en fait. Il y a une carte mère, comme un ordinateur. Il y a des ports USB dessus, comme un ordinateur. Si on veut rajouter un périphérique, on le rajoute en USB et on n'a pas besoin de parler électronique, langage de programmation. On travaille en open source. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait, par exemple, sur notre contrôleur de vol est à disposition sur Internet par tous les gens qui voudraient bosser sur notre contrôleur de vol. La dimension communautaire open source, elle, par contre, est toujours là.
De leur côté, les industriels se tiennent prêts à accompagner l'essor du drone civil. Pour l'instant, le marché français est estimé à 300 millions d'euros en 2015, mais selon Trang Pham, directrice du développement régional pour Thales Aquitaine, on n'en est qu'au tout début. Les usages se multiplient.
On a une entreprise assez emblématique qui a développé très vite des systèmes de drones en collaboration avec des pompiers, par exemple. Donc que ça soit dans la lutte contre les feux de forêt, que ça soit dans le soutien dans des catastrophes naturelles, hein, par exemple, pour soit alerter des foules, soit enfin différents types d'actions quand les réseaux sont endommagés, en fait, on va dire. Vous avez également beaucoup de développement dans le domaine de l'agriculture parce que les drones permettent d'observer des choses que les satellites ne voient pas, en fait, hein, puisque les agriculteurs travaillaient déjà beaucoup avec les images satellitaires. Et les drones donnent un autre angle de vue et sont une aide très intéressante pour l'agriculture de précision, en fait, hein, et permettre aux agriculteurs d'agir exactement là où ils doivent agir.
Après, des drones viticulteurs, par exemple.
Alors, viticulteur, vous savez, le viticulteur, il fait beaucoup de choses. Hein. Je vous rappelle qu'on est à Bordeaux, donc. Mais dans le domaine de la viticulture, vous avez simplement de l'observation des parcelles, ce qui vous permet de voir où vous devez apporter des traitements. Mais l'essentiel pour l'instant des drones dans le domaine de l'agriculture ou de la viticulture, c'est vraiment de l'observation. Et après, vous couplez ça avec un système d'analyse de la donnée et vous allez proposer ce qu'on appelle un système d'aide à la décision pour le viticulteur, de façon à ce qu'il sache exactement ce qu'il doit faire. Et la vraie différence, elle est là. Hein. C'est vraiment dans ce que vous allez en faire. Parce que faire de la prise de vue, c'est bien, mais ça n'est pas suffisant. Je pense que la France, dans ce domaine, se positionne plutôt pas mal. Si on regarde l'ensemble du marché des drones, historiquement, il est évidemment dominé par les États-Unis et Israël. Par contre, dans le marché des drones civils, grâce à la réglementation qui a été mise en place par la DGAC, l'industrie française a réussi à se positionner. Et ce qu'on voit sur les salons internationaux, c'est que quand nos industriels français, même nos toutes petites entreprises viennent, elles ont quand même un avantage parce qu'elles proposent des solutions opérationnelles. On est vraiment dans la vraie vie. Et ça, ça crée une différence pour le client final.
Oui, bienvenue, bienvenue au FlyLab. C'est donc notre laboratoire à cette équipe du FlyLab et on est à l'intérieur d'un endroit qui s'appelle la Paillasse, qui est un biohackerspace.
Biohackerspace.
Le biohackerspace, c'est comme un Fab Lab. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les Fab Labs, c'est un endroit où on trouve plein de machines de production, de prototypage. Et un biohackerspace, c'est la même chose, mais versus biologie. C'est-à-dire qu'on joue avec des molécules, on joue avec des bactéries, on fait des cultures, on fait des encres sans pétrole.
Donc ici, on fabrique des agents pathogènes que tu te charges de disséminer dans l'atmosphère
de la ville de Paris.
Donc c'est là le rapport entre les drones et le biohackerspace. Non, sérieusement, qu'est-ce que tu fais là?
Nous, le propos de notre travail au FlyLab, c'est réellement de réaliser cette plateforme qui va permettre de créer les usages futurs du drone. Et donc, notre plateforme et la carte qu'a pu faire Charles, sur laquelle on a pu bosser tous ensemble, c'est un premier robot administrable et qu'on puisse développer comme on développe un logiciel. Les radiocommandes que vous avez pu voir sur le terrain, ça nous semble tous complètement archaïque. Et donc, on fait table rase dans notre démarche. On a fait table rase et on repart sur des bases qui seront saines.
Parce qu'en fait, piloter un drone, c'est assez compliqué. Il vaut mieux, à la limite, développer l'intelligence artificielle, sa capacité de pilotage propre.
Un humain ne pourra jamais réagir aussi vite qu'un microcontrôleur ou qu'un ordinateur. Nous, on prépare une plateforme pour des robots volants réellement qui seront autonomes. Pour l'instant, l'ensemble du marché drone, c'est du drone piloté. Même ce qu'on appelle des drones dans l'armée sont des drones qui sont pilotés via des stations terrestres au plein milieu de Paris ou ailleurs et qui emmènent les drones sur leur position. Voilà. Nous, on est vraiment limite à pousser un petit peu le truc un petit peu plus loin.
L'armée française vient de prendre une décision importante. L'acquisition de drones américains, ces avions sans pilote qui ont pris une importance stratégique aujourd'hui. La France a-t-elle loupé le coche, entre guillemets, en renonçant à en fabriquer ? De toute évidence, la réponse est oui.
Livrés fin 2013 à l'armée de l'air, les drones américains MQ-9 Reaper sont entrés en action mi-janvier dans le Sahel en renfort des drones Harfang déjà déployés. De type MAL, pour moyenne altitude et longue endurance, le premier système de drones Reaper français est installé sur la base aérienne 101 de Niamey au Niger.
En termes de drones militaires, la France a jugé qu'il est urgent d'attendre. Pas de drones tueurs pour l'instant, on se contente d'acheter des Reapers américains désarmés jusqu'à la création d'un futur modèle franco-britannique. Pendant ce temps, ailleurs dans le monde, se préparent des drones armés embarquant de plus en plus d'intelligence artificielle, avec des cas où l'éthique est manifestement une préoccupation secondaire.
L'état-major des armées, le ministère de la Défense, a privilégié une solution intérimaire qui a consisté à acheter sur étagère des drones américains et à les franciser sur certains des sous-systèmes.
C'est le modèle Reaper, donc c'est un modèle américain, et ça veut dire la faucheuse en français.
C'est exact. Alors c'est une tradition américaine de donner des noms parfois un peu spéciaux aux armements. Par exemple pour les hélicoptères, c'était des noms de tribus indiennes. Bon, bref, chacun sa culture. On a acquis ces plateformes parce qu'effectivement on avait du retard, et c'est un retard qui est essentiellement de nature politique, c'est-à-dire que face à plusieurs options possibles, le politique a hésité. Et il a hésité notamment sur des questions qui sont d'ordre éthique, enfin moral, et juridique sur la question de l'armement. Et effectivement, le choix qui a été fait pour le moment est d'avoir des plateformes qui sont potentiellement armables, mais qui ne sont pas armées pour la France. Pendant un moment, la France était plutôt contre. Elle voudrait désormais apparemment développer une plateforme qui soit armée, notamment dans le cadre des coopérations avec la Grande-Bretagne.
Ça, c'est le drone Neuron dont on parle ?
Oui. Alors, le Neuron, l'idée est de trouver une solution commune avec les Britanniques. Jusqu'à maintenant, ce qu'on avait fait, les Américains notamment, c'est qu'ils avaient utilisé des plateformes qui, initialement, étaient utilisées pour ce qu'on appelle de l'ISR, des missions ISR. Donc, des missions de surveillance, de renseignement, de ciblage. Et on avait armé des plateformes qui étaient là pour faire du renseignement. Là, la logique est complètement différente, c'est que dès l'origine, la plateforme sera conçue pour employer des armements.
Et donc des drones armés, et peut-être même aussi des drones avec une autonomie de tir fatal, le permis de tuer, c'est peut-être pas pour l'armée française, mais ça existe déjà.
Alors ça existe déjà. En réalité, on est face à un vrai problème concernant ce qu'on appelle l'autonomie décisionnelle. Ça rejoint d'autres concepts comme celui de conscience. Est-ce que finalement l'autonomie décisionnelle, c'est simplement être capable de décider ou être capable de décider et d'apprendre ? C'est pas la même chose. On a déjà des systèmes qui sont capables d'apprendre par eux-mêmes, mais est-ce que on considère que ça fait partie de l'autonomie ? Est-ce que c'est une autonomie en conscience ? Là aussi, il y a un concept de conscience. Et la conscience, est-ce que c'est l'intégration des règles morales ? Alors, en plus, se pose le problème de quelles règles morales.
Autonomie létale,
c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Ce qui est compliqué, c'est un drone qui évite les humains. Ça ressemble à cette espèce de machine effrayante. Voilà, c'est ça. Mais celui des Israéliens est un petit peu plus compliqué que ça, et surtout il est armé. Celui-là, c'est un truc fait par les Américains. Ouais. Je sais pas si t'as vu évoluer cette machine.
Oui, Big Dog.
Voilà, Big Dog. Donc le truc israélien, c'est un Big Dog. C'est pas forcément un objet volant, ouais.
Ça peut être un chien.
Ça peut être un chien.
Bientôt, il y aura peut-être des policiers drones, enfin des drones policiers qui viendront, comme dans Robocop, vous signaler que vous êtes hors la loi.
Ben, j'en ai bien peur, ouais. Maintenant, dans quelle mesure et dans quel délai, je préfère le plus loin possible. Mais en fait, quand on regarde l'ensemble des technos qui sont en train de sortir, tout est là pour tout faire. C'est-à-dire qu'on a déjà des gens qui bossent sur la reconnaissance de visage. Donc on peut très bien embarquer une caméra sur un drone qui suive quelqu'un, qui le reconnaisse. Il y a des personnes qui bossent sur des algorithmes pour même savoir dans quel état et la personne qu'on est en train de voir, si elle est en dépression, si elle est schizophrène, quelle est sa phase de dépression, si elle est en train de sombrer dedans ou de s'en sortir. Enfin, on a des machines intelligentes qui fonctionnent sur des caméras qui sont capables de faire ce genre de choses. Donc si on imagine hybrider toutes ces technologies, ouais, on a de quoi flipper. Mais justement, l'idée, c'est de commencer à réfléchir à probablement un observatoire drone et du bon usage du drone. Maintenant, c'est vrai que la course internationale, on en est là. Les drones ont une autonomie létale.
Est-ce que c'est un sujet, donc l'autonomie de tir que l'armée française a abordé, l'armée de l'air, c'est un sujet dont on parle?
Bien sûr, oui. Ah bah bien sûr, oui. Ce qui pose un vrai problème juridique, éthique, social, sociétal, moral, tout ce qu'on veut, c'est le croisement des deux. C'est l'autonomie et l'armement. Donc oui, évidemment que l'armée de l'air, mais pas que l'armée de l'air, hein, s'y intéresse. La Direction Générale pour l'Armement, enfin, même les industriels s'y intéressent. Donc évidemment qu'il y a des réflexions. Si on revient sur la doctrine française est de toujours maintenir un homme dans la boucle décisionnelle, et notamment pour la phase de tir. C'est-à-dire de ne pas autonomiser la phase de tir. À moyen terme, ça ne bougera pas. Pour des raisons juridiques notamment, parce que pour le moment, le droit international ne règle pas cette question de l'autonomie, vraiment. Si un robot, une plateforme robotisée, devenait véritablement autonome, se poserait des problèmes de responsabilité que le droit ne gère pas encore complètement à l'heure actuelle. Les militaires eux-mêmes se posent des problèmes déontologiques quant à leur métier. Contrairement à une idée qui pourrait être assez répandue, les militaires ne sont pas des va-t-en-guerre. Et justement, quand ils partent en mission, ils veulent être sûrs que le cadre juridique est parfaitement bordé. C'est un impératif pour eux. Ce n'est pas du tout la technologie qui impose son rythme. Évidemment que ce sont les progrès technologiques qui nous amènent à réfléchir à des solutions juridiques pour l'accompagner. Mais il y a quand même une prévision de ce que cette technologie peut donner. Déléguer à une machine le droit de tuer n'est pas forcément quelque chose qui leur inspire qu'une vision positive. D'abord, c'est perdre une partie de sa raison d'être, de l'identité même du militaire. Et puis, il y a quand même la confiance qu'on peut mettre dans la machine.
Two-thirds of Israel's air combat missions are now carried out by drones. These advanced unmanned aircraft were crucial during the last three wars in Gaza.
Looks like we've got some lost and confused visitors over there. Let's take a closer look.
Il faut faire attention à nouveau à ce qu'on entend par autonomie et dans quel cadre. Et ces systèmes sont censés faire de l'interdiction de zone. C'est-à-dire que quiconque rentre dans une zone interdite, le système va le détecter et va tirer automatiquement. Pour les Russes, c'est un blindé chenillé de petite taille qui est équipé, si je me souviens bien, d'une mitrailleuse lourde qui est sur un affût qui pivote. Et alors, pour les Israéliens, c'est plus confus parce qu'on a peu de données sur ce qu'ils ont fait. Et notamment, il semble que dans certains cas, ils ont autonomisé des drones volants, des plateformes volantes. Et vous en doutez bien, on a très peu de données sur ces questions-là. Mais en réalité, on le fait depuis très longtemps. Je vais vous donner un exemple qui a été assez étudié et qui a été dramatique. En 88, un navire américain était équipé d'un système anti-aérien qui était partiellement autonomisé. C'était, de la même manière que ce que je vous ai décrit, un système d'interdiction de zone. Il a détecté un appareil qui rentrait dans la zone d'interdiction. Des messages ont été envoyés, l'appareil n'a pas répondu. Et les censeurs du système ont déterminé que c'était un appareil iranien. Donc la décision qui a été prise a été de faire feu. Sauf qu'en fait, il y avait des hommes dans la boucle. Il fallait une validation de la part de l'humain. Et là, ce qui s'est passé, c'est que les opérateurs humains ont fait confiance à la machine, alors même qu'ils avaient des indications très précises qui tendaient à montrer que ça n'était pas un appareil militaire. Et ça, c'est un des vrais biais, un des vrais problèmes psychologiques et cognitifs, c'est qu'à force de répéter que la machine était meilleure que l'homme, eh ben, les opérateurs l'ont cru, sauf que c'était un avion de ligne et qu'il y a eu 250 morts.
Maintenant, ces fichues machines arrivent à voler jusque dans nos lits.
Ouais. Elles volent dans nos lits. Il y a justement à l'ETH, il y a un drone chauve-souris qui sont en train de développer, qui est absolument fascinant, qui est capable de ramper aussi. Donc il rentre dans un appartement, il rentre sous la table, il repart, il vole. Ça, c'est très très hallucinant à voir. On sait que ça va prendre une ampleur énorme quand on regarde les chiffres des agences, ne serait-ce que l'Agence Nationale Spatiale Américaine, la NASA, le groupe LEAP, qui est un groupe industriel. On sait qu'ils envisagent déjà des marchés en centaines de milliards. Si on arrive à avoir une infrastructure qui permet aux drones de voler de manière fiable. Les États-Unis sont vraiment en avance par rapport à nous. Ils sont en train de développer un National Airspace System. C'est un système où ils harmonisent l'aviation classique grande ligne et ce qu'on appelle les UAS, donc Unmanned Aircraft System, enfin des systèmes autonomes volants. Mais voilà, donc ils sont en train de préparer les drones en ville. La Chine est en train de déposer des centaines de brevets quand on regarde ce qu'ils sont en train de faire dans les facultés sur l'évitement d'obstacles, sur le drone urbain, sur le Regional Airspace System, donc c'est plus de la science-fiction. Dans 10 ans, il y aura des drones partout.
Qu'est-ce que c'est que ça, mais...
C'est une tourelle. Mais c'est une tourelle Nerf. C'est une tourelle qui tire des billes en plastique.
Ouais, c'est pareil. C'est un robot tueur.
C'est un robot rigolo. Je suis pas persuadé qu'on puisse avec de la mousse de plastique tuer quelqu'un, mais.
Me vise. Mais c'est comme ça que les catastrophes arrivent. On pense faire un truc légèrement dans un labo et on se retrouve avec un robot tueur.
Ouais, mais c'est le but, hein. Après, tout le monde. La question, c'est que les technos soient accessibles.
Alors, comment tu t'appelles? On sait même pas comment.
Valentin.
Valentin, qu'est-ce que tu fais ici?
Eh ben ici, je travaille avec Hakim, où on travaille sur donc, le développement des drones du futur. Moi, je pense que tout le monde doit être conscient que c'est super facile, parce que là-dessus, moi, je mets un flingue à air comprimé ou un autre truc, je peux faire vraiment une machine de guerre qui tue les gens
sans
reconnaissance. Ouais, bon, sauf que c'est des fléchettes en mousse.
C'est vaguement inquiétant.
La France relève le défi. Avec Florence Arnaud, Trang Pham, Hakim Amrani Montanelli et son comparse Valentin, Frédéric Coste, Éric Darras, Patrick Gandil, Patrick Guyonneau, Frédéric Renaudot et Vance Richard. Attaché d'émission Christine Bernard, coordination Irène Omelianenko, prise de son et mixage, Pierrick Charles, réalisation, Céline Terce. Un documentaire proposé par Antoine Saxe.
Un documentaire que vous pouvez réécouter, télécharger sur franceculture.fr, la page de Sur les Docs.